pourrait faire des bruits d'animaux aussi dans le générique.
Miaou.
Mmh. Un chien, un cochon.
Il fait les oiseaux, tu fais bien.
Du verre dans les oreilles.
Je pense qu'on aura un super générique.
Donc du coup, on s'est dit que ce serait mieux en allant dans les fermes.
Bonjour.
Bonjour.
Céline.
Gwen.
Bonjour.
Bonjour.
Alexis.
Ça tombe bien que vous arriviez, parce que j'allais partir et je savais pas comment j'allais vous expliquer où j'étais.
D'accord, ben voilà, c'est,
ah,
bon,
voilà.
C'est là.
Très bien. Je peux vous montrer vite fait un petit peu la carte, si vous voulez.
Ouais.
On a, ouais, on a installé tout ça l'année dernière, en fait.
Wow.
C'est vraiment tout neuf. Et puis voilà, remis un petit peu à niveau le sol, refait un plafond et la première récolte.
Donc là, la quinzaine de tonneaux, ils sont pleins.
Ouais, ils sont pleins. Là, c'est que du blanc, du chardonnay pour l'essentiel pour l'instant et puis un petit peu de savagnin. J'ai deux pièces de savagnin et puis un assemblage savagnin-chardonnay. Et puis un petit peu de rouge, mais pas beaucoup non plus. J'ai deux pièces de rouge, un petit peu en cuve. Et puis
les plus fines bouches d'entre vous l'auront sans doute reconnu. Nous voici dans le Jura, et c'est Céline et Steve, jeunes viticulteurs dans le petit village de Passenans, qui nous accueillent cette semaine.
Là, on a le pressoir. C'est Steve qui l'a refait, en fait. On a récupéré tout, bah, un pressoir complet, mais qui était tout pourri, en fait. Et on a récupéré tout ce qui était ferraille, la vis, tous les entourages là, de la cage, et puis les pieds. Ça a fait intervenir plein de gens. Enfin, c'était un moment sympa aussi, quoi, de pouvoir...
Et c'est dans celui-là que tu as pressé
Ouais. On a encore un petit bout de cave là, qui a débarrassé, qui est plein de bazar, parce que le bazar, on le déplace, mais il y a un moment, il va falloir vraiment l'enlever. Et faut qu'on décaisse, faut qu'on refasse une dalle, enfin, il y a deux, trois encore travaux à faire. Mais voilà, petit à petit, quoi. C'est pour ça qu'une installation progressive, puisque je suis sur pas tout à fait 1,5 hectare, et du coup, ça me permet de faire les choses vraiment progressivement, quoi. À la fois pour m'équiper, pour la cave, et puis pour moi aussi, par rapport à... Au boulot, quoi. Parce que moi, la vigne, j'ai attaqué en 2004. Et j'étais pas du tout issue du milieu agricole. Et du coup, ben, pour les pratiques, pour ce qu'on a envie de faire... Moi, je suis en bio, j'ai demandé la certification, mais je pratique aussi de la biodynamie. Donc voilà, ça demande un petit peu de temps, de recherche, d'échange et puis d'essai, quoi. Donc du coup, c'est bien. Ça me laisse le temps, Ça ne me speed pas trop pour l'instant, j'ai pas encore commercialisé parce que mes vins sont pas encore prêts. Pour l'instant, ça bouillonne encore dans les fûts. Mais c'est vrai qu'après, le rythme va s'accélérer un tout petit peu avec la commercialisation. Mais pour l'instant, c'est bien. C'est plutôt calme.
Prévu pour quand, du coup, les premières ventes?
Bah, quand ils voudront bien se terminer. Donc j'espère cet été, ou en tout cas, j'espère avant les vendanges. J'ai bon espoir. Ils se font tranquillou, mais ils se font quand même, quoi. Donc ça va aller. Mais j'en ai une partie qui est pré-vendue déjà.
D'accord.
Alors, je vais prendre ma débroussailleuse. Ici, la parcelle avant, elle était désherbée en plein. Donc sous le rang, dans le rang, partout. Pas travaillé du tout. Mais du coup, voilà, cette année... Déjà l'année dernière, l'herbe est un petit peu revenue. Où on avait vraiment des trucs pas intéressants. Enfin, des trucs qui pouvaient pousser sur un sol assez pauvre, quoi. Et puis là, petit à petit, c'est en train de se recoloniser. C'est un petit peu plus varié, quoi. Cette année, il y a eu beaucoup de pissenlits. Parce que le but, c'est ça, quoi. C'est d'avoir une vie de micro-organismes dans le sol importante pour que le sol soit bien développé, que le système racinaire de la vigne puisse... qu'il y ait une symbiose qui se fasse entre tous ces éléments, quoi.
Donc là, le but du jeu, c'est de désherber entre
les pieds, ouais. Et puis, j'ai aussi l'intention de travailler avec le cheval, enfin, en tout cas d'essayer. J'ai des chevaux qui sont par là derrière, pas ceux-là, mais ceux qui sont derrière. J'ai une demi-comptoise et j'aimerais bien la mettre au travail du sol. Mais bon, pour ça, il faut, quand on s'y met, il faut s'y mettre régulièrement. Et pour l'instant, j'ai pas le temps de faire ça, quoi. Donc, je les entretiens et puis je les monte plutôt.
Voilà. Oui, d'ailleurs, des chouettes balades à faire en plus. Là.
Ah, ici, c'est superbe. Ah ouais, le coin est magnifique. Là, le Revermont qui est juste là derrière, tu peux te balader des heures. Puis tu as des points de vue. Dès que tu montes un petit peu, tu as toutes les vues sur la Bresse. Ouais, c'est magnifique. Hein. Là, on est dans un coin assez privilégié. Avec un petit peu de monde qui vient, des touristes, mais pas trop quand même. Donc c'est bien. Juste ce qu'il faut. Bon, et bah, tout à l'heure.
Ouais.
Céline s'est installée il y a un an et demi dans un contexte un peu particulier. Elle a souhaité acquérir ses parcelles via Terre de Liens, une structure qui fait de plus en plus parler d'elle.
Et pour cause, depuis une petite dizaine d'années, la foncière, comme elle se fait appeler, propose une des plus belles alternatives face aux limites actuelles de la gestion de la terre par la seule propriété privée individuelle.
Comment ça marche et en quoi ça consiste? C'est Steve, le compagnon de Céline, qui nous explique tout ça.
Terre de Liens, c'est né d'une réflexion autour du développement rural, sur les DIEC, ils ont travaillé beaucoup sur les statuts, notamment autour du foncier, l'acquisition collective du foncier, et les limites de tous ces statuts existants. Et de cette réflexion est née l'idée de monter une structure dont l'objectif serait effectivement d'acquérir du foncier collectivement, de mobiliser de l'épargne locale, et surtout de sortir du système spéculatif des terres dans un contexte de diminution forte des exploitations agricoles, de disparition de beaucoup de petits agriculteurs. Et du coup, l'optique de Terre de Liens était de dire, voilà, il y a par ailleurs plein de petits porteurs de projets potentiellement intéressés pour reprendre ou pour s'installer sur des systèmes de production peut-être différents, des productions plus petites, des circuits courts. Et que pour accompagner l'installation de ces gens, qui ont peu finalement accès au système, c'est-à-dire que l'information sur le foncier, vu que c'est les agriculteurs locaux qui se l'accaparent dès qu'ils se libèrent pour grossir, la terre n'arrive jamais, ou l'information n'arrive jamais à ces potentiels futurs agriculteurs qui s'installeraient sur des systèmes un peu atypiques, souvent la plupart du temps en cadre familial, et que, du coup. Voilà, c'est comment est-ce que sur la gestion du foncier, on peut avoir une réflexion un peu différente pour essayer de sortir du système spéculatif un certain nombre de terres, de les dédier à des productions respectueuses de l'environnement. Et donc du coup, voilà, Terre de Liens est née un peu de toute cette réflexion. Et l'idée du coup, c'est de mobiliser de l'épargne, donc d'acheter la terre pour des agriculteurs, de leur louer cette terre avec un bail environnemental, de ne jamais la revendre pour pas qu'il y ait de forme de spéculation et que Terre de Liens assure que cette terre gardera sa destination de production agricole, quel que soit l'avenir de l'agriculteur qui l'exploite le jour J. Donc après, la foncière, effectivement, les gens qui apportent des sous à la foncière deviennent actionnaires de la foncière. Donc l'action de la foncière coûte 100 euros. Et donc des consommateurs ou des citoyens réunis par exemple autour d'un agriculteur dans le cadre d'une AMAP ou dans le cadre d'un réseau un peu informel et qui souhaiteraient, parce que l'agriculteur rencontre des difficultés ou parce que l'agriculteur veut développer son projet, l'accompagner en l'aidant à acquérir des biens, des terres à exploiter et donc qui vont par le biais de la foncière pouvoir acheter des actions, la foncière acheter la terre et la mettre à disposition de cet agriculteur pour produire.
Mais toi, Céline, tu avais réuni les 15 000 euros nécessaires pour acheter ta parcelle, et tu as quand même préféré passer par Terre de Liens. T'as pas eu envie du tout, toi, à un moment, d'avoir ta terre quand même, de te dire, ouais, c'est à moi, je pourrais le transmettre comme je veux, tout ça.
Ah non, vraiment. Non, parce que je trouve qu'il y a cette sécurité avec Terre de Liens. C'est que ça va être transmis, et que ça va être transmis, ça va rester en bio, peut-être pas en biodynamie, mais ça va rester dans une agriculture respectueuse de l'environnement. Moi, c'est ce qui m'importe, quoi. Parce que c'est vrai que c'est... Nous, on a l'exemple d'un copain qui a vendu, qui était en biodynamie, qui avait des vignes... J'ai jamais vu des vignes aussi belles. Bah, c'est reparti dans le conventionnel, quoi. Là, ça fait vraiment mal au cœur quand... Quand tu sais l'énergie, le temps et vraiment l'amélioration qu'il a amené dans ses parcelles, tu te dis merde, c'est con quoi, tout ça pour repartir dans le désherbant et dans la chimie quoi, c'est dommage. Et ça je trouve que c'est vraiment un aspect moi qui me parle vraiment quoi, la Terre de Lien. Après, la terre, elle appartient à personne, de toute façon. Je sais qu'il y a un nom sur un bout de papier à un moment donné, mais on fait tout ce que passer, quoi. Donc non, vraiment, pour moi, l'essentiel, c'est que ça reste dans cette continuité. Que ça reparte pas dans des trucs aberrants, quoi. Mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Il y en a beaucoup, beaucoup. Il n'y a qu'un bourgeon qui est parti. Donc, je lui ai enlevé tout ce qu'il a sur la tête, là. Parce que ça ne sert à rien. Et puis, je vais en garder deux par sécurité. Je vais garder celui-là. Et puis là, je vais m'en garder aussi.
Ça sert à quoi en fait ce que tu viens de faire?
Ben, en fait c'est le même principe que les tomates. Les tomates on enlève des gourmands. Et là c'est comme des gourmands. Ça remonte du pied et du coup ça pompe. C'est des pampres qui nous servent à rien. Et qui pompent de la sève du pied.
Ce qui nous avait marqué lundi, quand on est arrivé, c'est que tu as le tronc, on va dire,
ouais.
Vraiment le cèpe, et quasiment rien d'autre autour en fait. Tu recoupes chaque année aussi court?
Ouais. Chaque année, je vais laisser en fait deux baguettes et en dessous un courson, donc un rappel, un petit bout de bois à deux yeux, qui lui est la pérennité du pied, quoi. Parce que mes baguettes vont être mes baguettes à fruits, et parce qu'il faut tailler sur un bois de 2 ans pour avoir du fruit. Et là, tu gardes que ça, 2 baguettes et 2 coursons. Il n'y a plus que ça, et la végétation redémarre au printemps, et du coup, tu as de nouveau plein de bois sur les fils, et chaque année, bah, tu en enlèves.
Et là, ça va remonter .
Ah bah là, en peu de temps, ça va repartir, ça va continuer à monter, et puis ça va tout envahir le palissage, il va falloir le tresser dedans, et... Ouais, c'est un cycle qui recommence quoi.
Ah, c'est du taf quand même.
Ouais, non mais la vigne on s'ennuie pas. Hein.
Ah ouais?
Non. Non, non. Voilà.
Bon alors. Tu nous disais donc que tu avais trouvé un système intéressant d'un point de vue finance. Pour ton installation en louant des cèpes de vigne. Ouais. En gros, tu peux nous réexpliquer un peu ça?
Donc, c'est une location de cèpes. On a défini que la vigne dans le Jura, en tout cas chez nous, le 2 pieds de vigne donnait une bouteille. Donc, on a proposé aux gens de louer des pieds de vigne et les gens payent une location. Et sont rétribués de cette location en vin. Et du coup, les gens, c'est comme un système d'AMAP, me versent leur location. Ça me fait une trésorerie avant d'avoir sorti mon produit, quoi. Ça me permet d'avancer financièrement, de pouvoir être un peu plus autonome, d'emprunter un peu moins. Et puis, mais c'est vraiment pas que ce volet-là qui est important, ça c'est certain. Mais c'est aussi d'avoir démarré avec des gens qui sont là, qui me soutiennent, quoi. Et Et du coup, les gens sont demandeurs aussi à venir bosser un peu, à venir participer sur des journées, puis faire aussi des fêtes pour se rencontrer. Ça mélange vraiment des gens assez différents. Donc ça, c'était le côté sympa de la chose, je trouvais.
Et puis ça te permet d'avoir un retour aussi sur la qualité de ton vin.
Ouais, bah oui, oui. Ça va être cette année le verdict, entre guillemets, parce qu'après, ça peut plaire à certains, pas à d'autres. C'est les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Mais moi, pour l'instant, j'ai pas vraiment fait de vin de voile. Je vais peut-être en faire, parce que c'est les vins de voile, en fait, qui sont spéciaux.
C'est quoi que t'appelles vin de voile?
C'est comme le vin jaune. C'est des vins qui sont élevés sous un voile de levure, et donc il y a une certaine oxydation dans le vin qui fait que, ouais, c'est un peu dur, quoi. Ça a des goûts de terre, des goûts, souvent on dit de pierre à fusil. C'est des goûts assez particuliers. Et c'est vrai que c'est des vins, en général, on aime ou on n'aime pas. Il y a peu de demi-mesures, quoi. Donc, sinon, il faut vraiment faire... prendre le temps, quoi. Pas démarrer par des vins trop forts comme le vin jaune. Et puis démarrer par... Il y a des chardonnays aussi qu'on peut faire sous voile. Donc, ça fait des vins qui sont un peu moins durs. Et puis après passer à des assemblages à chardonnay savagnin, après le savagnin, et puis après passer... Le savagnin, c'est le cépage du vin jaune, mais suivant le temps que tu laisses, tu peux laisser un voile pendant 6 mois ou 1 an, donc ça te fait des choses un petit peu moins dures, quoi. Et après, le vin jaune, quoi. Donc je pense qu'il faut y aller progressivement. Bon, on va mettre la table, si on... Toc.
Seul Louis qui s'est dégoûté ne boit plus jamais de vin, mais goûte ses soifs secrets.
Cette citation de Dali, largement bien imitée par notre ami Goulven, veille sur les fûts dans la cave de Céline. Hors de question pour nous de quitter la Franche-Comté sans avoir percé une partie de ses mystères.
T'as déjà la vue, tu regardes un vin, tu peux voir les jambes qu'il fait. Tu vois, c'est en fait le gras du vin, parce que c'est l'alcool aussi.
Le dépôt qu'il y a sur le verre, en fait.
Voilà, c'est le dépôt qui redescend. Tu vois, quand tu fais tourner ton vin, ça redescend. Ça fait des jambes. On appelle ça des jambes, tu vois, là. Après, t'as le premier nez. Tu sens une première fois avant d'agiter ton verre. Et là, tu sens... Je sais pas, si c'est des rouges, tu vas sentir peut-être des fruits, tu vas sentir de la viande.
Là, juste pour essayer, par exemple, celui-là, tu dirais qu'il sent quoi?
Il est plutôt végétal, celui-là. Il est assez... Il est assez sur des... Enfin, végétal et puis épicé un peu. Il y a un côté poivré, il y a un côté un peu mentholé ou herbe un peu fraîche, comme ça. Et puis... Après, en bouche. Il est un petit peu astringent. Il tient un peu la langue et puis l'intérieur des lèvres. Et quand tu goûtes, souvent, t'aspires un petit peu d'air. Tu fais glouglouter le vin dans ta bouche. Et en fait, t'as la rétro-olfaction. Qui fait que tu ressens le vin, mais avec à l'intérieur de ta bouche. Puis après, tu t'arrives à apprécier s'il est gras, s'il est sec, s'il est acide, s'il est amer. Tout ça, tu peux tout le sentir. T'as pas besoin de l'avaler pour le sentir, quoi.
Après, il y a toute une science qui peut être un peu prise de tête. Hein. Il y a tout un tas de gens qui se prennent très au sérieux avec ce truc-là. Et qui ont tout un vocabulaire très excluant, quoi. Les gens qui sont pas là-dedans, ils comprennent rien et ont l'impression que c'est très scientifique. Alors que
non,
c'est...
parce que tu peux avoir toute cette démarche et puis avoir des choses simples, quoi. Tu sens des trucs, tu goûtes des choses, voilà. T'as des termes qui te viennent, qui sont tes termes de tous les jours, quoi.
C'est toutes ces références qu'on peut avoir dans la mémoire qu'on a des odeurs ou des goûts qui est intéressante. et que c'est finalement quelque chose qu'on développe très peu quand on ne s'y exerce pas. Et dans la dégustation du vin, c'est ça qui est intéressant d'exercer, qu'au fil du temps, tu développes de plus en plus une capacité à refaire des références et des liens avec des odeurs que tu as déjà senties quelque part.
C'est une palette, quoi, en fait.
Et là-dessus, on a un copain, vigneron dans le sud de Vermont, qui est très fort là-dessus. Et lui, il aime bien parler aussi d'un autre aspect du vin qu'on aborde peu, c'est la question de l'ivresse. Et lui, il dit, c'est un truc qui est jamais pris en compte dans les dégustations. Et que l'ivresse, c'est pas de boire énormément, mais c'est la qualité de l'enivrement qu'un vin peut apporter dès sa première gorgée, quoi. Alors là, par contre, il faut avaler, quoi, le vin.
Mais quand tu dis dès la première gorgée, c'est qu'il y a un enivrement immédiat, enfin, tu me parles de ça.
Bah, pour lui, tous les vins ne vont pas procurer le même plaisir sur cette question-là de l'ivresse. Et que c'est un sujet qui reste un peu tabou et que, en même temps, lui, il trouve important dans la dégustation de pouvoir aborder cette question-là et d'envisager aussi le vin de cette manière-là, parce que ça a toujours été aussi un produit de convivialité, d'échange, de rencontre. Tu sors toujours une bouteille quand des gens viennent chez toi. C'est un moment particulier, le vin, et l'ouverture d'une bouteille de vin, et que, en particulier parce qu'il génère dans les échanges que tu as, jusqu'à un certain point, un certain nombre de choses intéressantes.
Et tout à l'heure, tu disais que c'était à toi d'arranger tes pratiques pour arriver au vin que tu veux. Tu sais déjà, toi, le vin que tu voudrais faire?
Ouais, des petits labés. On aimerait faire des vins assez riches, en fait. Les vins des labels, là, de ses copains, Julien, c'est des vins qui expriment tellement de choses, qui ont une richesse dans leurs arômes, dans leur... Au niveau gustatif, c'est énorme, tu t'en mets plein les papilles, et des vins complexes, et en même temps, voilà, tu reconnais plein de choses, et des fois pas toujours, et c'est arriver à ce type d'élaboration des vins, et puis aussi pouvoir repérer, parce qu'ils font aussi pas mal de cuvées parcellaires, c'est-à-dire que même dans une seule parcelle, ils distinguent des fois, ils vont la séparer en deux ou en trois, parce qu'ils sont sur des sols qui vont être différents dans une même parcelle. Et après, il y a leurs pattes, quoi, c'est sûr que...
Bah après, Julien, c'est un magicien du vin, enfin, c'est quelqu'un qui...
Ah ouais.
C'est un type qui dormait à la cave, quoi, c'est quelqu'un qui a passé ses nuits sur ses vins à réfléchir, à se poser plein de questions, puis qui en ressort en disant, faut être humble, quoi, faut arrêter de... raconter n'importe quoi, de toute façon le vin c'est un produit naturel et l'homme n'est qu'un petit intervenant sur ce truc là.
Ah mais tu l'écoutes parler du vin, tu vas en dégustation, c'est du récit, c'est des poèmes, c'est vraiment c'est une autre dimension quoi. Ah c'est des vins comme ça qu'on aimerait faire.
De la gestion collective de ses terres à une commercialisation en partenariat avec des citoyens, l'exploitation de Céline est un bel exemple d'une agriculture solidaire qui entend bien répondre aux aspirations grandissantes de notre société.
Et une fois de plus, ce projet a bien vu le jour. Et une fois de plus, c'est devenu réalité. Alors qui parle encore d'utopie? Merci en tout cas à Céline et Steve pour ce très beau projet. Si de votre côté, vous cherchez à en savoir plus sur Terre de Liens, nous vous invitons à aller fouiner sur leur site internet www.terredeliens.org.
L'épisode que vous venez d'entendre a été entièrement brodé à la main et réalisé avec des techniques artisanales par Goulven Maréchal et Alexilis.
Nous tenons à signaler qu'aucun paysan n'a été maltraité durant ce tournage.
Et si vous voulez en savoir plus sur notre projet, consulter des photos, des épisodes inédits et des bonus réalisés dans d'autres exploitations, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet
www.duverdanslesoreilles.fr.